Bienvenue sur le podcast Une session presque parfaite, le podcast qui rentre dans les coulisses de la transmission d'entreprise. L'objectif, aller à la rencontre de dirigeants qui ont vendu ou qui ont tenté de vendre leur entreprise, mais également échanger avec des avocats d'affaires, des investisseurs, des conseillers en session d'entreprise pour obtenir toutes les clés de réussite d'une telle opération. Je suis Eliott Samoun et je suis conseiller en session et financement d'entreprise.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Fabienne Saugier, présidente de Gemilis, qui accompagne les dirigeants en coaching dans tous les enjeux auxquels ils font face dans leur activité de dirigeant. Et Fabienne est venue nous parler des enjeux d'un dirigeant qui vend sa boîte. Et parce que Fabienne a une très grande expérience, très variée, et je suis très admiratif de son parcours. Donc voilà, bienvenue Fabienne.
Merci de me recevoir, Eliott.
Merci à toi, et je suis très content de te recevoir parce que tu as un parcours très riche, tu as un parcours dédié aux dirigeants d'entreprise, tu as été dirigeante, donc tu as vécu de l'intérieur la gestion d'une entreprise, tu as aussi accompagné des dirigeants d'entreprise dans leurs différentes opérations. Alors, est-ce que tu peux déjà, pour t'introduire, pour te présenter, nous parler de ton expérience en tant que dirigeante et de ton parcours aussi dans le domaine de la gestion d'entreprise?
Alors, pour te donner une vue globale de mon parcours, j'ai un peu plus de 30 ans d'expérience professionnelle. Alors, j'ai un parcours hybride dans lequel j'ai exercé trois métiers. Alors, j'ai d'abord passé 19 ans, c'est précis, sur des fonctions de CODIR ou de direction générale d'entreprise, dans des configurations assez variées. Donc, des entreprises qui étaient sous LBO, sous Venture Capital, dans des sociétés à capital familial ou des filiales de groupe. Et au milieu du parcours, j'ai été pendant 8 ans partenaire en fusion-acquisition dans des boutiques M&A, comme tu l'es aujourd'hui, comme entreprise des décisions. Et troisième partie du parcours, depuis 2021, j'accompagne des dirigeants et leur première ligne, donc le CODIR, essentiellement en coaching. Je vais agir, comme tu le disais tout à l'heure, en tant que sparring partner pour les aider à faire face aux enjeux de leur activité et auxquels ils sont aussi confrontés personnellement en tant que dirigeants. Alors, pour ce qui est de la partie opérationnelle, ce qui était ta question initiale, qui est souvent accompagnée d'une partie actionnariale dans mon expérience, j'ai essentiellement opéré dans le domaine des technologies, des médias et des télécoms, ce qu'on appelle les TMT.
Tout à fait. Et est-ce que tu peux, on voit donc, et comme ça rejoint ce que je disais en introduction, ton parcours très très riche, vraiment je sais pas comment t'as réussi à faire tout ça, et c'est impressionnant. Donc, est-ce que tu peux nous donner plus de détails justement sur tes expériences, sur ce que t'as pu mettre en place et les accompagnements aussi que tu proposes?
Alors j'ai commencé mon parcours en cofondant une entreprise dans le domaine des institutions culturelles et du cinéma en 1992. Ce qui ne me rajeunit pas.
Non. on dit rien.
Que la société existe toujours et fait actuellement de la production cinéma.
D'accord.
Ce n'était pas tout à fait sa mission au départ. Et j'en suis encore actionnaire minoritaire aujourd'hui.
Qu'est-ce qui t'a amené justement à te lancer dès le début, peut-être dans ce secteur-là?
Écoute, alors évidemment, ce n'était absolument pas un plan de carrière. Moi, je sortais d'HEC, donc j'avais fait ma vie, ça devait être le marketing d'ailleurs, plus que la finance, alors que j'ai fait beaucoup de finance après. Donc j'étais partie pour aller travailler chez L'Oréal ou chez Procter, Et puis j'avais quand même un intérêt très fort pour le spectacle.
D'accord.
Je faisais du théâtre à HEC. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas travailler dans ce secteur? Bon, je ne l'ai pas dit tout de suite à mes parents, parce que je ne pense pas que ça... Effectivement, ça ne leur a pas beaucoup plu. Après HEC, pendant un an, j'ai fait un DEA de littérature et théâtre.
D'accord.
Tout en travaillant à HEC. Parce que mes parents m'ont fait comprendre qu'il fallait quand même se mettre au travail et commencer à gagner de l'argent. Donc à HEC, je suivais un début de thèse en marketing et j'ai fait ce DEA tout simplement parce que j'ai vite vu que quand tu prends des fonctions structurantes dans ces domaines culturels et que donc tu vas discuter argent avec des artistes et organisations, c'est très très difficile si tu ne t'intéresses pas à leur projet. Ouais. Donc pour ça, je me suis dit il faut que j'apprenne l'histoire du théâtre, la scénographie, les différentes tendances, les grands metteurs en scène, les grands acteurs, etc. Donc j'ai fait ce DEA.
Bravo.
Et donc pour l'entreprise en question, donc je me sentais déjà plus prête. Et en fait, pourquoi j'ai cofondé une entreprise ? En fait, c'est très simple. C'est comme souvent pour la création, c'est une question de rencontre. J'ai rencontré des associés très complémentaires et on s'est dit. On y va. Ouais. J'ai la conscience de la jeunesse.
Ah, mais c'est voilà. ta première expérience, en fait.
Oui, tout à fait.
Bravo.
Et surtout, on a eu des clients tout de suite. Parce que c'est bien de fonder une boîte, mais c'est bien de commencer à avoir du chiffre d'affaires.
Et tu devais en plus montrer à tes parents que tu avais fait aussi peut-être le bon choix.
Alors là, ça nous emmène assez loin, donc je vais clore ce sujet. Mais au final, je ne suis pas sûre qu'ils aient bien compris ce que je faisais. Mais au final... Oui, et puis surtout, c'était une rencontre avec des associés,
bien
quoi.
Sûr,
et des clients.
Ouais.
Voilà. Donc, la société a toujours marché, a toujours été une bonus. On était très, très complémentaires avec nos associés, recrutés, etc. Donc, en 96, j'ai passé 4 ans dans cette société comme cofondatrice. Mmh. Et puis, j'en profitais pour la gérer, ce qui m'a appris à gérer une petite société.
Bien sûr.
Les premiers... contact avec l'URSSAF, des choses que je n'avais pas forcément appris à l'école.
On fout le mot URSSAF, parce que c'est des...
non, mais j'ai rien contre l'URSSAF, j'ai eu de nombreux contacts depuis. Mais voilà, donc en fait, là, ça m'a mis dans le concret. Et donc, en fait, j'ai souhaité quitter sur un plan opérationnel.
D'accord.
Comme quoi, c'est des choses qui sont dissociables, donc des choses d'ailleurs que vont se poser aussi des questions les dirigeants dans le cadre d'une opération. Pourquoi ? Tout simplement parce que en fait, j'avais découvert la production multimédia, c'était le tout début à l'époque avec les CD-ROM, en travaillant avec les institutions culturelles qui avaient de sublimes fonds audio, vidéo et documentaires. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse de la production multimédia. C'est très capitalistique, en tout cas ça l'était à l'époque, et mes associés ne voulaient pas se lancer dans une activité à forte composante capitalistique, ils voulaient rester dans du service. Donc, je me suis séparée en très bons termes avec eux et j'ai décidé d'aller faire de la production ailleurs, tout en restant actionnaire de cette société. Alors, 96, je rejoins le groupe Havas, qui avait une filiale de production multimédia très référente à l'époque. Donc, Havas devient très rapidement Vivendi. Donc je vis cette transition. Je rejoins comme, alors non pas du tout comme producteur, comme quoi il faut être un peu souple dans la vie, mais comme directeur financier.
Ah, pas mal.
Pourquoi j'étais
absolument
pas. En tout cas, puisqu'au départ, j'étais quand même partie pour faire du marketing. Et puis, une fois que les choses étaient en train, directeur du développement. Parce qu'évidemment, c'est une période d'essor incroyable du multimédia. Donc, sans faire le dinosaure, tu avais déjà le CD-ROM. Mais très rapidement, Internet est arrivé. On était vraiment dans le précurseur au début. Les services en ligne. Et puis, on est devenu même fournisseur d'accès à Internet. C'est-à-dire qu'on s'est occupé de télécom, quoi, les tuyaux. Une activité en pleine croissance, donc qu'il a fallu structurer. À tous les niveaux, classique, les dirigeants d'entreprises qui sont en forte croissance connaissent ça très bien. Je suis restée chez Vivendi, mais pour des raisons qui sont liées à l'actualité du groupe, notamment par le jeu de fusion, je suis transférée en fait en 98, toujours au sein de Vivendi, dans la presse professionnelle. Parce que Vivendi avait une très grosse branche de presse pro, en l'occurrence à l'époque dans le groupe Expansion, qui avait 4 titres de presse, pour développer les services en ligne Internet.
Donc toi, ça t'emballait vraiment énormément.
Je change de fonction, puisque je deviens officiellement, alors comment on appelait ça à l'époque, directeur e-business. J'étais directeur financier puis du développement. Mais si tu veux, en fait, je faisais partie des gens qui avaient l'expertise du numérique, ce qui était à l'époque assez précurseur, puisque je venais de ces filiales. Mmh. Et alors là, il y avait quand même deux enjeux forts. Donc, c'était développer les services en ligne, hein, donc from scratch pour la plupart. Donc, on est quand même à une phase où ce n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et puis, alors, il y avait un enjeu majeur social, c'était acculturer les journalistes aux nouvelles technologies. Voilà.
Parce que oui, hein, parce qu'à l'époque, effectivement, on en parle pas assez, mais c'est vrai qu'il y a le public qui fallait sensibiliser, bon, qui venait de découvrir ces nouvelles technologies, mais effectivement, les journalistes, c'est vrai que c'est...
C'était un contexte social assez tendu, hein, donc à l'époque, puisqu'en fait, c'est en pleine négociation des problématiques des droits d'auteur, hein, qui n'est...
Il fallait encadrer,
la presse avait fait fermer toute une série de sites, pas chez Vivendi, mais ailleurs, par voie de référé. Enfin, c'était donc... Et puis les journalistes, comme c'était un changement majeur, ce qui est tout à fait compréhensible, connaissaient assez mal et surtout étaient assez anxieux de savoir comment, du coup, allait évoluer leur métier par rapport à ça. Donc, il était essentiel d'acculturer et de faire adopter ça par les rédactions. Et accessoirement, il y avait des sujets de syndicaux sur lesquels j'ai un peu travaillé, sachant que j'avais été très, très confrontée au sujet syndical dans ma première société où j'avais été amenée à gérer la relation avec le syndicat du cirque.
Ah oui.
Un syndicat très dur.
Je ne savais même pas qu'il y avait
j'étais particulièrement dure. Et du spectacle, bref, les intermittents, etc. Donc, j'avais un peu d'expérience déjà à l'époque dans la relation syndicale, notamment quand il a fallu un peu travailler avec le SNJ, le Syndicat National des Journalistes. Donc, c'était absolument passionnant. Donc, j'ai mis en place une équipe. Enfin, bon, bref, on a lancé peu à peu, on a lancé les sites. On a travaillé, parce qu'on avait la chance chez Vivendi d'avoir un peu toutes les fonctions très rapidement avec les gens de la communication et de la publicité pour voir comment on pouvait monétiser aussi ces nouveaux services.
Oui, parce qu'il n'y avait pas même de business model, il n'y avait rien même de comparable aussi.
Aux États-Unis, on avait évidemment du retard. Alors, il y avait déjà des choses qui commençaient à exister, y compris chez Vivendi, mais on était vraiment au début. Maintenant, ça paraît complètement naturel, mais ce n'était pas du tout le cas à l'époque. Donc je fais ce travail et en fait, c'était une forme de mission de transition. C'est-à-dire, je laissais après la place à quelqu'un qui prenait en fait la suite quand... les choses étaient mises en place et qu'on passait dans une phase de gestion plus de croisière, on va dire. En fait, à ce moment-là, je devais remonter chez Vivendi dans une autre filiale qui d'ailleurs fusionnait aussi. En fait, j'ai quitté le groupe parce qu'on m'a fait une proposition que j'ai trouvée tout à fait intéressante. Donc, je suis partie fin 2018 pour rejoindre un groupe d'édition familiale franco-américain. Qui s'appelle Encyclopédia Universalis.
Ah ben oui,
éditeur de l'encyclopédie du même nom. Je rappelle qu'à l'époque, on parlait de 28 volumes papier.
Ah oui.
Enfin bon, voilà. Hein, donc, on était vraiment sur...
C'est eux qui t'ont débauché, en fait, Fabienne, c'est ça, d'accord?
Oui. Donc, pourquoi? Alors, pourquoi franco-américain? Parce que c'était une fortune française et une fortune américaine. Mmh. Grosse fortune, qui possédait aussi d'ailleurs la Britannica.
D'accord.
Voilà, avec une gouvernance 50-50.
Donc, c'est pas évident des fois.
C'est un apprentissage.
Ouais, c'est ça.
Et donc, j'ai rejoint le jeune président de l'époque. On avait le même âge quasiment, donc très jeune président, qui s'appelait Pierre Lehmann, qui aujourd'hui vit aux États-Unis. Et dirige un groupe, avec deux missions. D'abord, il y avait une mission d'urgence, parce qu'en fait, la société, à cette époque, s'est retrouvée en face de retournements très brutal, alors qu'elle était ultra in bonis.
Elle n'avait pas encore pris le virage qu'avait pris Vivendi sur le domaine du digital, entre guillemets,
de business.
On
était quand même dans l'édition traditionnelle.
Oui, bien sûr, oui.
Voilà, donc elle commençait. Hein, heureusement, il y avait des gens... Pierre Lehmann et aussi le directeur éditorial qui était très visionnaire. Mais surtout, il fallait accélérer très fortement. Bon, d'abord, parce que la société s'est retrouvée en difficulté, donc il fallait vraiment faire vite. Et deuxièmement, parce que non seulement, évidemment, le numérique a bouleversé complètement le marché, et très vite aussi les attentes des utilisateurs, et surtout a bouleversé le paysage concurrentiel. C'est-à-dire qu'avant, les concurrents d'une maison d'édition comme ça-là, c'est les grands éditeurs d'encyclopédies mondiaux, achète en France. Ouais, la Mondadori, France, ouais. Tu vois, en Italie, etc. Mais là, le concurrent, c'était Microsoft. Donc, qui est arrivé avec Encarta, donc un éditeur de logiciels, qui a débarqué dans les supermarchés, donc changeant en plus tout le mix produit-distribution sur un produit beaucoup moins cher, avec toute la force de frappe qu'on peut imaginer Microsoft et son agilité, et des contenus qui, peu à peu, gagnaient quand même en qualité.
Et surtout, comme tu l'as dit aussi, c'est les concurrents entre eux, ils ont l'habitude de se concurrencer, donc peut-être de se compétiter. Mais là,
oui, le marché était assez bien partagé.
Face à un nouvel acteur, un petit peu d'acteurs différents.
Et puis vraiment un acteur extrêmement différent. Énorme coup de pied dans la fourmilière. Et là, donc on a Pierre et l'équipe de direction et moi-même. J'aurais tendance à dire toute l'équipe. On a vraiment bougé très vite. Donc évidemment, recrutement. Mais ça, c'était déjà dans les tuyaux d'une équipe IT. Mmh. Donc, jeune équipe IT versus des éditeurs ou des fonctions support. Je veux dire, il y avait essentiellement des médailles du travail chez Universalis. Des gens qui avaient 30 ans d'ancienneté. on est vraiment dans un autre monde de différence de génération, différence de culturel et tout. Et alors, ce que ça m'a appris, c'est que tu peux mélanger, quand tu as un projet commun vraiment fort, et que tu as des gens réellement impliqués dans l'entreprise ou dans le projet, tu peux mélanger les générations et tu obtiens un cocktail absolument détonnant. Les générations, alors ce que j'ai fait, pas toute seule, mais bien sûr, ça, c'était vraiment l'idée. Pour moi, ça m'a montré la force des équipes. Et vraiment, chacun a donné le meilleur de lui-même. Le dialogue s'est très bien passé entre les différentes fonctions et en même temps, des différences de génération. Donc, d'abord, je crois que ça a créé des amitiés solides, intergénérationnelles. Et il y a eu le meilleur du savoir-faire, en fait, des gens, des historiques. Et puis, toute la créativité, la nouveauté. Et l'ensemble a donné quelque chose absolument extraordinaire. Avec quand même, et ça, bien sûr, la direction est forcément pour plus que pour quelque chose. C'était avec quand même un projet incarné par Pierre et son équipe de direction, Pierre Lehmann, qui a emmené tout le monde. En partant d'un fond extrêmement fort, c'est qu'il y avait un attachement des gens au projet encyclopédique avec presque une mission de service public. Donc, les gens ne voulaient pas que l'Universalis s'effondre. Ouais. C'était viscéral. Donc, toute cette mobilisation d'énergie et de compétences bien orchestrée, en 2 ans, la société a été redressée. Je dois dire, alors c'est très très vieux, hein, tu garderas si tu voudras, mais dans la deuxième année, on était numéro 2 des ventes en FNAC, derrière Age of Empire, le jeu de Microsoft.
Mais non.
Si.
Age of Empire, vraiment pour les personnes qui nous écoutent.
C'est pour te dire, on partait, peu importe, tout ça c'est vraiment très très ancien, mais on partait de très loin, et moi ce que j'ai appris surtout, c'est la force d'un projet d'entreprise, la force de sa culture, parce qu'Universalis, il y avait une vraie culture, et la force de cette dynamique collective avec le meilleur de chacun et des compétences des uns et de l'esprit des uns et des autres.
Bah on voit le résultat, parce que Age of Empire, à l'époque, c'était vraiment le jeu...
Voilà, on était contents.
On
était contents. C'est
une belle marque de reconnaissance et de travail.
On connaissait Microsoft, on les a appelés, était très contents. On était derrière eux quand même. Mais bon, si tu veux, c'était même pas premier des encyclopédies, c'était premier... de tous les CD-ROM, quoi. Après Age of Empire.
Et surtout en 2 ans, quand même, faut le souligner.
Oui, non,
que
vraiment...
Dans une société qui se retourne, entre guillemets,
c'est exceptionnel. C'est vraiment très court, oui.
Donc, un gros travail d'équipe.
Voilà, donc plus la gouvernance, parce qu'on était aussi dans une configuration. C'était pas un fonds d'investissement qui mettait de l'argent de façon massive. Mmh. Il fallait faire aussi avec une forme de sobriété, des actionnaires familiaux. Donc voilà. Donc, pour moi, en tout cas, ça a été vraiment une très belle expérience. Et aujourd'hui, j'en vois encore les bénéfices en termes d'apprentissage.
Ah bah, j'imagine.
Je souhaite à tout le monde de faire ce type d'expérience. je vais essayer d'avancer parce qu'on arrive à l'aune des années 2000, ce qui fait qu'il y a plus de 20 ans.
Ah bah, c'est bien, la chronologie.
Je ne voudrais pas lasser tes tes auditeurs. Donc, Universalis sur les rails, grâce à ce travail collectif, rétablissement de la profitabilité. Et là, évidemment, je baignais quand même déjà dans un espèce de chaudron nouvelle technologie Internet. Alors, pour ceux qui ont mon âge, qui se souviennent, vraiment extrêmement foisonnant, c'était le début des années 2000, ce que les ouais. journalistes ont appelé la bulle Internet. Hein. C'est vraiment extrêmement effervescent. Et moi, j'avais envie d'être partie prenante de ça. Mmh. Universal, il y a eu pas mal de changements au niveau actionnarial, au niveau gouvernance, au niveau stratégie, et aussi parce que Pierre Lehmann est parti à ce moment-là. Donc, c'est resté une société extrêmement intéressante. Simplement, je pense que mon rôle aurait été beaucoup moins intéressant ouais. pour moi sur la suite. Donc, je suis partie aussi de façon très partenariale et j'ai rejoint, alors à l'époque, c'était un des premiers incubateurs de start-up. Mmh. Ça s'appelait République à l'aide, donc oui. la République, hein, à Paris. Et que, donc, comme actionnaire, donc j'ai acheté des parts.
Okay.
Et comme associé, opérant aussi, un D'accord. peu operating, ce qu'on pourrait dire ouais, aujourd'hui, un peu ouais. operating partner. Donc, j'avais, outre le fait que j'étais associée à l'incubateur, je n'étais pas toute seule, hein, on avait des gens très prestigieux avec nous. On était 6 ou 7 associés opérants à l'époque. Donc moi, qu'est-ce que je faisais? Bah, j'expertisais des acquisitions pour le fonds, hein, donc ouais. Première chose, chercher à augmenter notre portefeuille. Et puis, j'avais un rôle. Alors à l'époque, c'était vraiment ce concept de l'incubateur qui a été quand même largement affiné depuis. C'est bien. de conseiller aussi les participations, c'est-à-dire de les aider
dans le développement,
à se structurer,
bien sûr, hein,
etc. Bon. Donc j'avais ce double rôle, c'est extrêmement intéressant. Donc j'avais le plaisir d'à la fois commencer à travailler sur de l'investissement. Hein. Moi, j'ai toujours pensé quand même que la gouvernance, la composition du capital est quand même un sujet clé pour la réussite de l'entreprise. Donc, vraiment, j'étais très très heureuse de remonter en haut du bilan quelque part.
Bah, oui, bien sûr.
Et puis en même temps de garder le lien avec l'opérationnel en conseillant et en étant un partenaire des jeunes, parce qu'à l'époque tout le monde avait 20 ans, ouais, évidemment, des jeunes start-upers qui avaient.
Et tu vois des nouveaux business surtout à l'émergence d'Internet.
Des nouveaux business, c'est... enfin c'était vraiment passionnant. Et là, paf, explosion de la bulle Internet,
ah,
oui. 2001, retournement du marché. Alors, pas des encyclopédies ce coup-ci, ouais. mais alors, bon, explosion de la bulle, crise financière, crise de l'investissement, crise des startups, ouais, de façon ouais, générale, ouais. parce que
vous
plus de liquidité. Puis bon, t'es loin d'être toute rentable. Donc, bah alors là, ma mission change, puisque en fait, je reviens à la case entreprise en difficulté.
Ah ouais, bah oui.
C'est très simple.
Je crois qu'à chaque fois...
j'ai pas de... Voilà, non, j'ai terminé par du pur humaniste. Donc, mais là, à l'époque, effectivement, retour à la case entreprise.
T'avais toutes les secousses.
Sur le numérique, oui, il y a eu toutes les secousses. C'est un petit peu lié au secteur, pas seulement à mon expérience et à l'époque. Donc, je me retrouve à la demande du fonds. Propulsée directrice générale de Publibook, qui était une des participations qu'on essayait de sauver de cette période vraiment difficile. C'était une start-up vraiment intéressante, pionnière en fait dans l'édition d'ouvrages en petite série grâce aux technologies d'impression à la demande.
Comment ça fonctionne en gros c'est,
ah ben, ça veut dire qu'en s'appuyant sur des technologies d'impression à la demande, tu peux en fait... On a vraiment, à l'époque, refondu toute la chaîne de valeur de l'édition. Parce que le vrai problème de l'édition, bien sûr, c'est l'aléa de la vente, etc. Enfin, bon, surtout sur des fictions, on ne peut jamais savoir. Mais c'est aussi le stock. C'est-à-dire, tu vas être obligé d'imprimer un nombre minimum d'exemplaires, soit pour faire des mises en place, soit pour réassortir. Et l'ajustement du stock qui plombe la chaîne de valeur est extrêmement complexe. Ce qui fait que ça impacte tes choix éditoriaux, parce qu'il y a un niveau de risque que tu peux pas prendre. Faut savoir que la plupart des livres, alors si quelqu'un du syndicat de l'édition m'écoute, il aura peut-être des choses plus récentes que, mais moi, je me souvenais d'un chiffre qui était que la plupart des livres se vendaient à moins de 500 exemplaires.
Ouais,
voire même moins. Donc
ils avaient
quand
toujours
50
000
ouais. nouveautés sur le marché par an, voilà, donc il y a vraiment une complexité de la chaîne de valeur. C'est un métier difficile, l'édition. Et donc, Publibook avait résolu ce problème puisqu'il avait travaillé avec des partenaires pour monter une chaîne technologique permettant d'imprimer jusqu'à un exemplaire à des coûts raisonnables. Ce qui veut dire qu'on pouvait verticaliser complètement l'offre et prendre des offres même très ciblées. Donc, on était assez proche finalement de l'armatant. On avait une branche très spécialisée. Donc, ça pouvait être de l'édition universitaire, ça pouvait être de l'édition communautaire. Alors, je te donne un exemple. On a sorti la biographie de Mike Brandt.
Ah oui.
Alors, Mike Brandt, il y a une communauté de fans de Mike Brandt incroyable.
Oui.
Alors, c'était, C'était écrit par le président de l'association des fans de Mike Brandt, hein, tu vois. Et donc, on a vendu, mais un montant colossal. Voilà, toi, tu peux trouver, en fait, ce qu'on a retrouvé après dans la presse professionnelle, c'est-à-dire des verticalités communautaires. Sûr.
Qui tout marche, à fait.
Et puis, après, tu avais vraiment presque tout ce qui était un peu édition à compte d'auteur. C'est vraiment des gens qui écrivent des souvenirs pour leur famille, pour un événement particulier. Mmh. Des chercheurs qui vont écrire pour un congrès, par exemple. Donc, tu vois, on pouvait leur sortir à la demande 200, 300 ex, s'ils refaisaient une deuxième intervention, une nouvelle... Enfin, voilà. Mmh. Donc, on a commencé à faire des choses assez intéressantes sur un plan marketing parce qu'on avait gagné cette souplesse tout en prenant le compte d'auteur. C'est une société qui avait une très forte croissance. On avait 60 nouveaux auteurs par mois.
Ouais.
Donc, ça allait très vite. Ah, oui. Et qui, évidemment, se retrouve très vite en crise de croissance parce que, outre le fait qu'il fallait adapter la structure, le deuxième sujet, c'était les liquidités, bien évidemment.
Sûr.
Parce qu'il faut quand même un certain temps... Ça fait quand même des profits marginaux assez faibles.
Pour amortir les coûts aussi.
Voilà, et puis même, bon, voilà, il y a le tâtonnement du démarrage. Donc, on se retrouve, on est en situation où il n'y a plus de liquidité du tout. Hein, et la société n'était pas encore, avait pas encore atteint son point de rentabilité. Donc, moi, je descends dans la société pour assister le président et les équipes pour trouver, structurer cette société et essayer de la faire survivre à ce contexte extrêmement difficile, dans un contexte, en fait, que je n'avais pas tellement mesuré au départ, qui était quand même une vraie crise de trésorerie qui était déjà là, en fait.
Ah ouais, d'accord.
Et que je pense que personne n'avait... Les KPI étant ce qu'ils étaient à l'époque, personne n'avait
vraiment... Ouais, c'était pas assez documenté, c'était structuré.
Voilà. Bon, donc, au bout d'un an ou deux, je ne sais plus exactement, en fait, on décide de passer en redressement judiciaire pour... d'abord parce qu'il y avait vraiment une situation de cessation de paiement, il y avait vraiment une crise de trésorerie. Et puis, par ailleurs, une très très grande difficulté à lever des fonds à cette époque. Donc, on se retrouve avec une gouvernance avec le fonds qui ne peut plus abonder et une très grande difficulté à trouver rapidement des fonds, même si tout le monde trouvait que la société était très intéressante, vraiment tombée à un moment de marché très complexe. Donc, on met la société pour la protection de tout le monde en redressement judiciaire. Et là, je pense que ça aussi, ça a été une expérience extrêmement formatrice, puisqu'en fait, redressement judiciaire dit quand même poursuite d'activité.
Tout à fait.
C'est pas la liquidation.
Oui, non, exactement. C'est important que tu dises, parce que c'est pour protéger justement les...
Voilà. C'est vraiment une période assez, entre guillemets... où on est un peu en dissociation mentale, c'est-à-dire que tu gères les procédures avec quand même une communication à mettre en place au niveau des salariés, au niveau de
des clients,
au niveau de tes partenaires, etc. Attendez, on n'est pas mort, mais voilà.
Il faut les rassurer, c'est ça qui
va y aller. Voilà, il y a un travail vraiment de communication, il y a un travail de procédure, tu es en relation avec l'administrateur judiciaire, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de sauvegarde, donc c'était redressement. Ou
ah ouais, d'accord, bien. Ah, ça, je ne savais pas.
La sauvegarde est arrivée après.
D'accord.
Donc, c'était assez radical. Et par ailleurs, tu fais tourner une équipe. Alors, je crois qu'à l'époque, on était entre 20 et 30.
Ah, donc, quand même.
Avec l'importance de garder les gens motivés.
Ouais.
Ce qui est complexe. Tu vois, qu'ils partent, les personnes clés ne partent pas. Donc, au final, pour terminer sur cette expérience qui s'est soldée en 2004, la société était vendue. C'est racheté par le petit futé.
D'accord, pour une somme symbolique, c'était surtout...
clairement.
Ouais.
Donc, le petit futé, c'est engager un maintien de l'activité de l'emploi. Et effectivement, la société a été pérennisée.
Ouais.
Et les équipes sont restées, mais parfois même 10 ou 20 ans. Je crois qu'il y a encore des gens qui datent de cette période.
Ah ouais.
Alors, je crois que depuis, le petit futé a cédé aussi, recédé l'activité. Enfin, il y a eu de nouvelles... aventures actionnariales, mais en tout cas, ça a pérennisé l'activité, donc on a planté ni les auteurs, ni les équipes.
Bravo.
Et ça, je sais pas si c'est bravo, mais c'est vraiment un sujet, quand t'es dirigeant, tu te sens quand même une forme de responsabilité vis-à-vis de tes partenaires déjà, et sociale.
Oui, parce que
vraiment.
Tu sais aussi...
Et je pense que ça parle à des dirigeants qui veulent céder, et se dire... Enfin, voilà, j'ai passé 15 ans, 20 ans avec des équipes fidèles. Qu'est-ce qui va se passer après pour eux,
tout
quoi,
à fait.
Hein. Donc, petit futé vendu. Et après, la session en 2004, Bon, là, j'ai donc, pour rappeler, là, je travaillais depuis 92. Là, je décide de faire une longue parenthèse. Enfin, une parenthèse qui, finalement, s'est avérée assez longue sur un plan opérationnel. Je mets de côté la direction d'entreprise et je reviens, enfin, au sujet de l'investissement, qui était quand même ce pour lequel j'avais, au départ, rejoint l'incubateur. Donc, très vite, je pars plutôt vers le M&A, la transaction, donc ce que tu fais, toi, aujourd'hui. Et je cofonde, en fait, en 2005, une boutique M&A spécialisée, TMT. C'était quand même un secteur que je connaissais bien, avec une associée qui était parfaitement complémentaire.
Que tu avais rencontrée au cours de tes expériences précédentes
ou alors, dans la sphère personnelle.
Ah ouais, d'accord.
Tout à fait. Je n'oserais même pas dire... Chose qui arrive. Écoute, c'est très simple. C'était la mère d'un des amis à l'école primaire ou même en maternelle de ma fille.
Ah ouais, d'accord. Très bien.
Née, voilà.
Ah ouais.
Donc, on commence, je pense, à prendre un café après l'école, etc. On commence à discuter. Parcours complémentaire. Elle, envie de sortir d'un groupe. Ouais. Réseau complètement complémentaire. Vision tout à fait similaire de du marché, de la façon de faire le métier. Bon, moi, je m'étais déjà associée une fois et ça s'était bien passé. Donc, on vérifie un certain nombre de présupposés. Et comme la première fois, finalement, comment ça démarre? Parce qu'en fait, on a dû créer assez vite la société, même presque tout de suite, parce qu'on a eu des clients.
Ah
voilà,
ouais.
Donc,
c'est venu comme ça,
client,
ouais, ça ouais, c'est...
Bah, nos réseaux.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc on a eu des clients tout de suite, en fait. Donc, même avant de prospecter, après, on a structuré, évidemment, la prospection. Mais donc là, tu démarres. Ouais. Voilà, tu crées la société, tu démarres. Vraiment, on a fonctionné de façon complètement complémentaire. Et puis, donc on avait beaucoup d'opérations dans les TMT, soit qu'on avait en direct, soit qui nous étaient sous-traitées par des grandes banques d'affaires, enfin des grandes structures M&A, qui à l'époque, c'était une époque de nouveau très faste, et très faste pour le M&A. Hein, on était heureusement sortis depuis longtemps de la crise de 2001-2003. Et les banques d'affaires étaient un peu gênées parfois parce qu'elles avaient beaucoup d'affaires. Certaines, elles ne voulaient pas refuser parce que... C'était délicat vis-à-vis de clients historiques pour une filiale qui les intéressait moins. On avait proposé des partenariats de banques d'affaires pour qu'ils puissent déporter sur nous, sous leur marque ou sous la leur,
d'accord,
comme au choix, une activité complémentaire sur laquelle ils ne souhaitaient pas mobiliser les ressources en interne. Donc, ça a pérennisé notre business,
ah bah,
il faut être clair,
bien
en dehors de ce qu'on récupérait directement. Courant 2007, on sent une crise arriver. Les premiers deals avec le crédit claquent à l'été 2007. Problème sur la dette, là, qui commence à arriver. Je rappelle pour l'histoire, on est quand même encore sur une période assez ancienne, qu'on est quand même à l'aube de la crise des subprimes et de la crise du crédit d'une façon générale.
Tout à fait.
Ça commence à être compliqué aux États-Unis, mais même en France. Et donc, moi, je voulais un peu sécuriser ça. Donc, je propose à mon associé de s'adosser, peut-être à une des banques d'affaires avec qui on travaillait. Elle a souhaité garder son indépendance. Donc, ça, c'est très important de discuter aussi de façon très ouverte et sans trop d'affect avec son associé quand il y a des sujets, finalement, une divergence de projet, parce que du coup, on peut trouver des solutions très sereinement. Elle, je lui ai revendu les parts. Elle a continué l'activité seule, pour des questions... voilà, c'est un choix personnel. Et moi, j'ai rejoint Forge, qui était un de nos partenaires, comme partenaire au M&A.
D'accord.
Donc, alors depuis, c'est devenu De Groove Petercam.
Ouais,
et donc, là, je vais me retrouver finalement dans ce que tu fais aujourd'hui. C'est-à-dire, je vais vraiment accompagner des opérations, plutôt de sessions. Hein.
Ouais.
J'ai fait un peu d'acquisition, mais beaucoup, beaucoup plus de sessions. Ce qu'on appelle dans notre jargon small et mid cap.
Ouais.
Donc, j'aurais tendance à dire sur des tailles d'entreprises, des valorisations qui vont de 2 ou 3 millions d'euros quand c'est des sociétés très visibles, notamment dans les médias, donc quand il y a une marque forte, jusqu'à plusieurs centaines de millions d'euros. Hein. Donc,
ça
stretch assez fort. Et là, tout secteur. Donc, je sors des TMT, j'en fais un peu, mais je fais aussi de l'industrie.
Toi, tu avais voulu les rejoindre, ils t'ont dit, en gros, tu restes focus sur ton secteur parce que tu as un gros réseau dedans ou tu avais l'agilité de pouvoir...
Il y avait deux choses. D'abord, à Forge, à l'époque, a fait rentrer De Groove, la banque De Groove au capital. Donc, il y a eu une phase d'expansion.
Ouais.
Donc, ils recrutaient de nouveaux associés,
d'accord,
premier sujet. Donc, il y avait une bonne opportunité, un bon momentum par rapport à Forge. Et puis, deuxièmement, il y avait une confiance aussi avec Damien Bachelot, qui était le président d'Aforge à l'époque, parce qu'il nous avait vu travailler quand il nous avait sous-traité une ou deux affaires. Donc, il y avait une confiance, finalement, sur la façon d'opérer, sur la vision du métier. Et puis, ben, aussi, j'avais quand même un petit réseau depuis le temps que j'étais dans, ouais, dans le circuit. Bien sûr. Donc, il y a une capacité, puisque c'est quand même aussi ce qu'on demande à un associé en M&A, c'est d'originer des affaires.
Bien sûr, exactement.
Voilà. Donc, jusqu'à 2013, donc j'arrive chez Laforge début 2008, donc crise des subprimes.
Tout le chaos qui s'ensuit, ouais.
Madoff, bref, tout le chaos.
Ça y est, Madoff, ouais.
Petite période assez troublée, mais enfin bon, le bateau tient bon. Et puis moi, je fais mes opérations, je suis très heureuse chez Laforge, ça passe très bien. En revanche, alors en 2013, donc ça nous amène donc 2008-2013. Donc là, je vais clore finalement cette parenthèse M&A. Pourquoi ? Parce que en fait, je monte une dernière opération qui est un petit LBO dans la cybersécurité avec un fonds. Et le dirigeant, qui était une personne que j'avais rencontrée dans l'incubateur 20 ans avant, le président. Et le LBO se fait et le président me propose de rejoindre le LBO.
D'accord.
Voilà. Donc, je me dis, bon, belle opportunité. Donc, je rejoins le LBO comme directeur général et actionnaire.
D'accord.
Donc, avec le fonds que j'avais fait rentrer et le président et ses équipes. Et puisque c'était, le président déjà n'était pas le fondateur.
D'accord, ok.
C'était donc, déjà un repreneur.
Okay.
C'est pour ça que le fonds est rentré.
Et puis, toi, tu avais l'habitude des situations de sous-tendues, on va dire, tendues. Donc, c'est vrai que diriger une boîte sous LBO, ça te faisait pas peur, ouais, c'était un challenge pour toi.
Honnêtement, j'ai fait rentrer le fond, alors ça ne m'a apporté absolument aucun privilège, mais disons que je les connaissais bien, donc j'avais confiance.
Ouais.
C'est-à-dire que déjà la gouvernance, je connaissais très bien aussi Raphaël Dessigny, dont j'avais confiance aussi, on s'était connus dans l'incubateur, on était restés proches, j'avais suivi toutes ses aventures entrepreneuriales, parce que c'était un serial entrepreneur, enfin, ça l'est toujours à ma connaissance. Donc il y avait une confiance, donc ça c'était très important, j'avais confiance dans la gouvernance de la société sur le fait que j'arriverais à m'insérer dans cette gouvernance de façon harmonieuse. Premier sujet. Deuxièmement, je croyais à son projet. Je trouvais que c'était vraiment, qu'il y avait une vraie singularité de la société, un vrai projet de développement. Et puis, je savais aussi que j'étais complémentaire. Donc ça, c'est un sujet important aussi dans les associations. Complémentaire de Raphaël Dessigny sur la vision et sur aussi nos compétences respectives. Donc, en fait, ça me donnait quand même un certain nombre de voyants ouverts pour rejoindre ce LBO.
Ah, très bien.
Voilà. Et ça s'est, je dois le dire, vraiment bien passé. Donc, il y a eu un gros pas turnaround dans le sens... Il y a eu une grosse conduite du changement. Mmh. D'abord, c'est une société in bonis qu'on a laissé in bonis plus.
Ouais, parce qu'il y a eu plusieurs LBO avec qui ont suite été faits, non ?
Non, il n'y en a qu'un seul.
Non,
un seul.
D'accord. Après.
Donc, on est sortis fin 2019, hein, tous les deux, ouais, Raphaël, d'accord. Enfin tous les trois d'ailleurs, avec le fonds, hein, le fonds Raphaël Dessigny et moi-même. Alors déjà, pour moi, c'était quelque chose d'agréable. Je suis arrivée dans une société, une bonis. Ouais.
Ça changeait de...
Bah, donc, il y avait un socle qui fait qu'on pouvait quand même se projeter plus facilement à long terme, etc. Et du coup, faire une conduite du changement extrêmement sereine, rapide, parce que bon, le changement, il ne faut pas que ça traîne non plus, mais quand même très sereine, parce qu'on est passé, on a vraiment changé le modèle économique, on est passé de jour-homme, puisqu'en fait, on travaillait en cyber sur des problèmes de constitution de preuves dans le cadre en phase de pré-litige ou de traçabilité d'éléments numériques. Bon, je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu technique. Mais on est passé d'un modèle de jour-homme, en fait, c'était du temps comme du conseil, à un modèle de service outillé, donc de l'abonnement annuel, parce qu'on a totalement digitalisé l'activité, donc un modèle de licence.
Ouais.
Payable d'avance.
Ça, ouais, ça, c'est...
6 000 clients, hein, quand même. Il y a
ah,
du énorme. Monde.
Ah, oui.
Un modèle de service outillé, en gardant quand même la partie conseil, parce qu'on ne peut pas se passer d'une partie humaine. Donc, pareil, en centrant les gens sur le meilleur d'eux-mêmes. Et comme chez Universalis, il y a eu beaucoup de recrutement. Il y a eu des reclassements aussi, des départs. Mais en essayant de garder le meilleur du savoir-faire de ceux qui avaient la mémoire, hein, parce que c'était quand même une vraie expertise. Hein.
Oui,
c'est une société qui existait depuis 78. Hein.
Ah, oui.
C'est très, très ancien pour de la cyber. Donc, garder la mémoire tout en apportant des nouvelles compétences, des nouveaux points de vue. Et pareil, une mayonnaise, là, comme chez Universalis,
qui
prend très, très bien. Donc, pour moi, ça a été une expérience extrêmement agréable. Donc, Raphaël Dassigny et le fonds sont sortis, et moi-même, parce que j'étais actionnaire minoritaire, donc j'étais draguée longue, comme on dit.
Oui, drague longue,
pardon, petite blague, private joke.
Sortie de...
Je suis sortie en même temps que tout le monde, et je suis aussi sortie de la direction opérationnelle, parce que quelqu'un a voulu prendre la direction opérationnelle qui reprenait. Donc, la fin 2019, je sors du LBO, enfin, nous sortons tous du LBO, vraiment la veille du Covid, hein, ou presque.
Ah oui, bah oui. Donc, c'est vrai qu'il y avait le Covid en BU, bien sûr.
C'est un peu qui a passé une année 2020 un peu complexe.
Tu vis vraiment toutes les périodes de crise, tu ressors à chaque fois d'entreprise, tu retrouves une période de crise.
Écoute, j'ai l'impression que c'est vraiment c'est un sujet circulaire,
c'est cyclique.
De karma probablement.
Non, du tout.
Donc, mais bon, écoute, tout se passe bien, hein, je ne renie aucune des expériences. Donc, et heureusement pour tout le monde, on arrive quand même à la fin, parce qu'on est quand même sur 2019. Donc, en fait, c'est là où j'ai démarré. Alors, 2020, je te cache pas que je cherchais une entreprise à reprendre, mais que je trouvais que le contexte n'était pas très favorable. Mmh. Notamment parce que les valorisations sont devenues considérablement élevées.
À l'époque, très élevées.
Donc, même pas à cause du Covid. Mais en fait, depuis 2021, je me suis tournée vers un troisième métier. Donc, premier métier, c'était donc la direction opérationnelle ou la contribution, quand j'étais au CODIR de la direction opérationnelle. Deuxième métier, le M&A. Troisième métier, donc, je me suis tournée vers le coaching, que je suis devenue coach de dirigeant, hein, qui est un vrai métier, hein, qui s'apprend. Alors, désormais, je suis dans ma propre structure qui s'appelle Gemellis, et j'ai fait mes classes et mon expérience chez Visconti, qui est un cabinet très référent de la place. Donc voilà, donc depuis, alors je suis ressortie de la phase opérationnelle, mais non pas pour faire du M&A, mais pour accompagner les dirigeants. On va en parler au fil de nos discussions comme sparring partner pour leur apporter un œil extérieur et les aider à aller au bout de leurs options, de leurs choix, de leurs décisions, de leur compréhension, décryptage et les aider à... et de leur fournir un œil assez neutre. C'est ça qui est important, puisqu'en fait, le dirigeant, il est coincé entre ses actionnaires, ses équipes. Tout le monde est jugé parti dans l'affaire. Donc, le coaching, c'est vraiment très particulier parce que ça, même quand on parle de business, hein, c'est pas forcément que du coaching comportemental. Mon rôle, c'est d'être un œil neutre, quelqu'un qui n'est pas partie prenante. Et donc, il va pouvoir apporter un questionnement et un mirroring différent de celui quelqu'un qui est impliqué dans les opérations. Voilà. Et j'apprends beaucoup et je continue à apprendre. Donc, à côtoyer beaucoup de dirigeants. Voilà, j'ai terminé.
C'est un CV vraiment impressionnant.
Beaucoup moins vite.
On pourrait même faire un podcast entier sur ton parcours. Tellement intéressant.
Je pense que je ne sais pas si... Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long.
Non, t'inquiète pas. Donc... donc toi, Fabienne, voilà, on l'a vu, tu as une grande expérience à la fois opérationnelle, à la fois financière, stratégique, etc. Au vu de tes différentes expériences en entreprise. Alors, selon toi, quels sont les principaux défis professionnels auxquels un dirigeant de PME est confronté quand il envisage ou met en œuvre une opération de cession d'entreprise?
Alors. Non, je m'accroche au mot défi que tu as employé, qui est un mot assez fort. Bon, c'est pas toujours un défi. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'il existe des opérations qui se passent complètement en douceur. Ça arrive. Par exemple, je te donne un exemple que j'ai vu très régulièrement. C'est une cession de gré à gré entre un partenaire extérieur, entre un dirigeant qui possède son entreprise et un partenaire extérieur de longue date, un client, un fournisseur, un partenaire complémentaire. Où j'ai vu aussi un collaborateur dûment préparé à cette succession.
Oui.
Voilà. Donc, là, tu es dans une situation où on se connaît, on travaille ensemble depuis longtemps, on se fait confiance, il y a un sujet clé. Chacun connaît bien aussi, quand c'est un partenaire, l'entreprise de l'autre. Et donc, il y a une forme de cession qui apparaît assez rapidement naturelle dans ce contexte. Oui. Donc, ça existe, je l'ai vu, mais en fait, ça n'est que la résultante d'une relation de longue date. Voilà. Donc, je l'ai vu dans ce contexte-là. Alors, après, quand tu n'es pas dans cette situation, Là, c'est vrai que, de ce que j'ai pu observer, la plupart du temps, le dirigeant qui souhaite céder est confronté là à des vrais défis. Alors, d'une façon générale, juste pour quand même mettre les pendules un peu à l'heure, j'aurais tendance à dire que déjà, le défi, c'est quand même assez inhérent au métier de dirigeant, indépendamment du sujet de la session. Parce que vraiment, au fil de mes expériences et de mes échanges là aujourd'hui avec des dirigeants que je coach et de mes expériences personnelles, j'ai vraiment acquis la conviction que diriger, en fait, c'est un métier. Et ça, tu l'apprends tous les jours. Et ça comprend évidemment des défis professionnels et personnels, mais qui se renouvellent très régulièrement.
Bien sûr.
Jamais les mêmes. Alors... Je pense que je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que les dirigeants qui peut-être nous écoutent le savent. Hein. Je pense qu'ils ont tous des exemples en tête. Alors, pour résumer sur quelques défis professionnels, je vais en venir au sujet de la session. C'est faire cet aller-retour qui est assez exigeant entre le stratégique et le quotidien, où tu dois à la fois anticiper le futur tout en veillant à la bonne marche du présent.
Ouais.
Donc ça, c'est un premier challenge fort pour un dirigeant. T'as un défi quand même, et qui, dans le contexte actuel, est un défi, ce qui est vraiment un défi, qui est d'éclairer, d'accompagner les équipes, d'embarquer ses équipes, ses collaborateurs, et voir tes parties prenantes extérieures dans son projet, et développer et créer des liens solides avec son écosystème, c'est-à-dire avec ses fournisseurs, ses partenaires, ses clients, dans un contexte, en plus, qui est quand même très, très challengé depuis... il y a eu des crises, hein, comme on en a parlé. Mais là, c'est vrai qu'on est un petit peu en situation, j'aurais tendance à te dire, moi, je me théoriserais un peu en disant de crise permanente, quoi. Hein. Donc, bien sûr, veiller au bon séquencement, ça, c'est un problème de synchronisation de l'exécution. Ça, c'est pas facile. Et puis, gérer, quand tu as déjà des actionnaires, ton alignement avec les actionnaires. Donc, il y a des défis déjà très multiples dans le métier de dirigeant. Chacun, après, évidemment, a un focus plus particulier à un instant T sur tel ou tel défi. Mais j'aurais tendance à dire que dans un contexte d'opération, de session, ces défis sont complètement accentués. Deux défis qui me paraissent émerger de façon très particulière, c'est... le défi, ce que j'appellerais pour le dirigeant, donc là, on est toujours sur la partie de l'activité, dans son activité professionnelle, de double temporalité. Alors, ce que je veux dire par là, je vais reprendre une métaphore cinématographique, c'est de faire un arrêt sur image, donc un instant T, parce que tu vas céder, donc un état de l'entreprise sur sa position de marché, la pertinence de son offre, ses actifs, son organisation, ses performances, ses risques, perspectives, etc. Donc, une sorte d'état des lieux. Donc, c'est vraiment qui arrête le temps, quelque part, avec, en plus, des incertitudes sur la durée, en fait, et le calendrier de cette session. Alors, t'as un arrêt sur image, en plus, qui peut durer quelque temps et qui peut même évoluer en fonction de... qui n'est pas complètement figé, avec la marge des affaires, qui peut en plus évoluer. Donc, il y a là, à la fois, d'être capable de s'arrêter pour faire cet arrêt sur image, qui n'est pas évident quand on est dans le mouvement, et en même temps, t'as le flux... à gérer parce qu'il faut continuer à gérer l'entreprise.
Ouais.
Business as usual.
Exactement.
Et
encore plus prenant pendant le process.
Donc, tu fais ton arrêt sur image, je finis ma métaphore cinématographique, mais tu as quand même un film qui continue parallèlement à se dérouler, et en plus, le scénario peut être parfois imprévisible.
Hein, j'aime beaucoup cette métaphore.
J'essaye de donner une illustration.
Ouais, c'est très bien.
Sur des choses qui me ramènent là à 92,
Donc,
comme quoi on est quand même le produit de son histoire.
Ça t'a servi aussi.
Voilà. Et j'aurais tendance à dire que l'impact là-dessus, c'est que la gestion du temps et de l'agenda du dirigeant, elle est toujours critique, mais elle devient encore plus critique dans cette phase d'opération du fait de cette double temporalité. Donc ça, c'est le premier point. Après, pour terminer sur les enjeux professionnels, le reste, ce dont on a parlé dans la direction, de toute façon, est encore plus sous pression. Mais il y a aussi un autre sujet, c'est que s'il a des partenaires au capital, le dirigeant n'est peut-être pas seul au capital de son entreprise, ça peut être la famille, ça peut être des minoritaires quelconques, ça peut être déjà un partenaire financier et on passe à une opération 2, il faut gérer la communication, les discussions, l'alignement et la synchronisation avec toutes les parties. Et ça, c'est très... J'aurais tendance à dire que c'est presque plus consommateur d'énergie, de temps que de gérer les acheteurs.
Ouais,
voilà.
Exactement. Ah, mais c'est, je te rejoins.
Donc ça, le dirigeant, il est pas tout seul, mais il est en première ligne là-dessus. Surtout s'il est actionnaire, évidemment, la plupart du temps, c'est le cas, voire actionnaire majoritaire. Donc ça, ce serait pour des défis professionnels.
Et donc, défis professionnels, défis plus personnels, Fabienne ?
Alors, j'ai l'impression de dire que le gros morceau, le point dur, il est là, quoi. Encore plus la partie professionnelle, même si elle est quand même, elle peut être, pas le cas toujours, mais elle peut être assez challenging. Donc, déjà, d'une façon générale, tu as le dirigeant, il faut quand même se dire qu'il a une position à la fois centrale et unique. Ça, vraiment, sa position est unique dans l'écosystème de son entreprise. Donc, sa mission est vraiment complètement unique, et puis sa position. Et donc, de ce fait, il est régulièrement, pareil aussi, indépendamment d'une opération, c'est inhérent à sa condition de dirigeant, il est confronté à des défis personnels qui vont être exacerbés par cette fonction de direction. Alors, je peux te donner quelques exemples. Je pense que ça parlera peut-être à certains dirigeants qui nous écoutent. Donc, la solitude, la subjectivité. Voilà, garder le recul, c'est généralement, plus il est solitaire, plus c'est difficile de dialoguer avec soi-même tout le temps et d'avoir du recul. Bon, de façon évidente, la charge mentale de la direction, c'est toi qui es quand même responsable in fine de la bonne fin de l'entreprise et du travail. Donc, et là où on rentre dans des aspects très personnels, avec les risques quand même de fatigue sur la durée et de démotivation. J'aurais tendance à dire que l'exigence mentale qui est demandé à un dirigeant, elle est assez proche de celle du sportif de haut niveau.
Ah, bien sûr.
Tu vois, et en plus, il faut courir à la fois le sprint et le marathon.
Ouais. À la fois, il faut convaincre les acheteurs du bon business, et à la fois, il faut quand même continuer à montrer des bonnes nouvelles aux acheteurs. Et donc, ramener des nouveaux clients, et au moins, ne serait-ce que maintenir le business actuel.
Alors, tu vois, je pense que justement, dans une opération de cession, bon, tu vas retrouver toutes ces composantes, mais alors de façon encore plus exacerbée. Pourquoi ? Parce que le dirigeant, il va être surexposé à des regards extérieurs, dont il n'a pas forcément l'habitude. Et des regards extérieurs, tu vois, ça va être les acheteurs, sa banque d'affaires. Parce qu'en plus, ce regard extérieur, pas un regard neutre, c'est un regard qui va faire l'évaluation de l'opportunité d'acquérir cette société, et si oui, à quelles valeurs et conditions. Donc, par transitivité, alors ce que j'ai pu constater, c'est qu'une sorte de transitivité entre la société et le dirigeant lui-même. C'est-à-dire que ce processus d'évaluation, qui est un processus plutôt d'évaluation de la société, il est quand même régulièrement, c'est pas toujours, mais perçu finalement, de façon parfois inconsciente, comme une évaluation du dirigeant lui-même. En tant que chef d'entreprise. Donc, c'est pas explicite, mais c'est ça perçu comme ça, ce qui peut, du coup, le rendre très sensible aux critiques.
Exactement.
Sur sa société, par exemple. Voilà, donc tu as cette exposition qui est un vrai challenge, parce que, du coup, tu affrontes personnellement cette exposition. Tu as aussi une solitude qui est exacerbée, parce que tu portes la responsabilité in fine de l'opération.
Bien sûr.
Et il y a le sujet de la confidentialité. Donc, soit sur l'opération elle-même, soit sur le déroulé de celle-ci. Donc, ça veut dire deux choses au niveau du challenge. C'est que il est conseillé, on va dire, à la fois de prendre sur soi et de garder la maîtrise de la communication, quels que soient les aléas de l'opération. Il y a toujours des moments complexes. Pourquoi ? Parce qu'il faut prendre garde. Alors, il y a bien sûr la communication verbale. Tout dépend du niveau de communication que tu peux ou que tu as décidé de fournir à l'entourage, aux équipes. Mais indépendamment de ça, ça dépend des sociétés et de leur culture, de plein de choses d'ailleurs, et aussi du type d'acheteur. Mais c'est aussi de prendre garde des choses sur lesquelles on fait un peu moins attention aux signes non-verbaux que l'on envoie. Tu vois, un dirigeant qui a l'air soucieux, qui est nerveux, fatigué du fait de la pression de l'opération ou de la charge de travail supplémentaire que ça induit chez lui, va envoyer involontairement des signes que les équipes peuvent mal interpréter, parce que ça reste de l'implicite. Donc, ça va aller de « je, le dirigeant, ne m'apprécie pas », tu vois, parce qu'un collaborateur s'est trouvé face à un dirigeant nerveux ou « je ne fais pas bien mon travail », « ah, l'entreprise va peut-être mal », En passant par, si pour ils sont au courant de l'opération, l'opération se passe pas très bien. Ouais. Donc, ça peut créer une forme d'anxiété, de démotivation, parfois avec une erreur d'interprétation des signes, mais ce sont des signes. Donc, ça laisse marge à l'interprétation. L'idée, c'est quand même, le challenge, c'est d'essayer quand même, sans renier ses émotions, de contrôler tout ça pour protéger, en fait, l'activité et les équipes. Tu as un défi sur l'énergie du dirigeant. Parce que continuer à dérouler le plan de route tout en gérant la charge mentale et le temps passé sur l'opération, il y a quand même un sujet d'allocation d'énergie pour garder sa lucidité et à continuer à transmettre aussi de l'énergie à l'entourage, à tout l'écosystème. Si l'opération ne fonctionne pas, il va falloir gérer les oscillements de ta propre motivation en tant que dirigeant. Et c'est pareil aussi, essayer de... d'amortir les chocs sans que en protégeant les autres. Le dernier défi que je vois fort, c'est un défi face à l'incertitude de l'avenir du dirigeant. L'opération de cession, ça va faire bouger les lignes sur la place et sur le statut du dirigeant.
Son statut social aussi. La peur de se projeter.
On est très focalisé sur l'opération, mais enfin, le problème, c'est l'après aussi pour le dirigeant.
Exactement.
C'est pareil, c'est pas toujours conscient, ça. Alors, je vais parler au féminin pour changer, s'il n'y a pas que des dirigeants, il y a des dirigeantes. Elle est dirigeante et après l'opération, elle ne le sera plus, par exemple. Alors, c'est quoi le projet futur après? Bon, ok, on gagne de l'argent, c'est formidable, ça, c'est évidemment. Matérialise la réussite. Mais enfin, après avoir consacré autant d'énergie à une entreprise, tu peux te retrouver avec une forme de peur du vide.
Ouais.
Donc, il faut anticiper ça parce que ça va créer des peurs aussi pendant l'opération.
Oui,
à un moment, tu es face à ta vérité personnelle, en fait. Et le plus tard, c'est le plus préjudiciable, c'est finalement vis-à-vis de l'opération. Donc, pareil, si lui, il reste au capital, ou je reviens à un dirigeant ou générique, puisque le masculin l'emporte dans la langue française, quelle va être sa position future s'il reste? La gouvernance va forcément évoluer, s'il vient avec un fonds, par exemple. Est-ce qu'il perçoit vraiment les glissements des attendus de sa position? Parce que forcément, il va peut-être plus exercer son métier de la même façon. Soit parce que il y a une autre gouvernance et une autre stratégie, soit parce que il est un... En fait, cette opération correspond à un nouveau cycle dans l'entreprise. Donc, les attendus ne vont pas être les mêmes.
Tout à fait.
Voilà. Et dernier point, tu as aussi le risque que l'opération peut révéler aussi des conflits d'intérêts entre actionnaires. Et aux dirigeants, ils doivent les gérer.
Ouais.
Voilà. Sinon, il n'y a pas d'opération. Donc, ça fait quand même de très, très nombreux défis personnels. Alors, tout le monde ne les a pas tous en même temps, mais on peut quand même être confronté.
Tout à fait.
Enfin, il faut savoir qu'en tout cas, tous ces défis-là existent.
Alors, est-ce que, dès qu'on parle de dirigeants de PME, est-ce qu'il y a des spécificités particulières pour cette catégorie de dirigeants?
Écoute, en synthèse, tu vas retrouver ce que j'ai dit précédemment, mais j'aurais tendance à dire que sur une PME, donc une plus petite entreprise, et plus elle est petite, plus c'est critique, tu vas avoir une allocation du temps et des ressources affectées à l'opération encore plus critique.
Exactement.
Pourquoi? Parce que le dirigeant a souvent un rôle opérationnel clé. Il est vraiment très partie prenante de la marche des affaires. Cette double temporalité, justement, est complexe. Et puis, tu as des ressources internes limitées lorsqu'il va falloir aussi préparer un certain nombre d'éléments pour les audits.
La documentation,
etc. Donc, c'est plus exigeant. Donc, il faut vraiment bien voir ses priorités. Et puis, dernier point qui sort un peu plus technique sur la contrainte sur la valorisation de l'entreprise. Ouais. Bon, c'est vrai que la taille fait que quand elle est plus petite, les acheteurs peuvent imaginer aussi que c'est un petit peu plus fragile.
Plus risqué, bien sûr.
Tu peux avoir d'ailleurs ce qu'on appelle une décote de taille.
Ouais.
Et le degré de dépendance à son dirigeant et un accès parfois plus réduit au marché financier. Donc, il y a des points de vigilance qui vont être un petit peu particuliers dans les PME dans le cadre d'une opération. Mais voilà, globalement, tu vas retrouver quand même
C'est exactement ce que je rencontre aussi sur des opérations avec des PME. Tout ce que tu as dit, c'est exactement ce qui se passe dans leur tête. Donc, c'est important aussi de savoir les rassurer.
Je suis ravi que nos expériences convergent.
Bien sûr. Et je suis très content que tu le soulignes parce que c'est pas que la finance, c'est très, c'est beaucoup personnel, très psychologique aussi.
Bah, plus l'opération est petite, finalement, plus tu es dans la personnalisation.
Tout à fait.
Et que l'aspect humain, en fait, prend le pas sur l'aspect technique, même s'il y a une technicité évidente dans ce type d'opération.
Alors, Fabienne, quel est le bon moment, selon toi, pour céder, pour vendre?
Bah, j'aurais tendance à dire, c'est une combinaison de voyants au vert. Alors, peut-être tous les voyants sont pas au vert, mais il y a quand même une série de voyants au vert sur l'entreprise ou l'environnement. Donc, bon, des éléments liés à la performance de l'entreprise, performance financière quand même avec un peu d'historique qui montre une forme soit de croissance, soit de stabilité. Évidemment, s'il y a eu 2 ans de gros accidents de parcours, c'est pas évident que ce soit la meilleure période pour céder, sauf si on n'a pas le choix. Donc, en gros, le message clé que ça passe, c'est qu'il y a un socle solide. Et aussi, aujourd'hui, on juge beaucoup les entreprises sur leur résilience et leur adaptabilité. Il y a eu des crises récurrentes, crise de l'énergie, géopolitique, le Covid, etc. Donc, comment l'entreprise a fait face et comment l'entreprise s'est adaptée. Donc, ça, c'est un point clé parce que je trouve que ça devient difficile de faire des plans à 10 ans.
Pour peu que
ça ait été un jour possible, ça n'a pas été qu'un mythe.
Non.
Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'imprévus. Donc, on va essayer de juger surtout la capacité de l'entreprise, indépendamment du fait qu'elle a quand même des prévisions, à s'adapter. Ok, deuxième sujet, je pense qu'il faut considérer aussi le cycle de vie de l'entreprise. Est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle histoire, en fait? Est-ce qu'on a atteint un palier sur une étape? Est-ce que céder à un nouvel actionnaire, ça fait sens pour passer à l'étape suivante, que ce soit la consolidation, un plan de développement, une diversification, une internationalisation, enfin bref, une nouvelle étape dans la vie de l'entreprise. Et j'aurais tendance à dire, là, moi, quand je travaille là-dessus avec des dirigeants, de regarder aussi 2 choses, les avantages et les inconvénients à céder par rapport aussi à ce qu'est l'entreprise, mais aussi les risques à céder ou ne pas céder. Ne pas céder, qui peut être aussi...
Après, qui peut amener l'entreprise
regarder aussi les 2 aspects. Parce que il peut y avoir des limites dans la configuration actuelle d'une entreprise avec ses moyens financiers, ses compétences, dans l'environnement de marché actuel qui fait qu'effectivement, il peut y avoir des limites aussi sur le développement possible d'entreprise dans la configuration où elle est, avec même sa direction, ou son actionnariat. Donc, effectivement, on peut se poser la question toujours de céder, mais on peut aussi se poser la question de si je ne cède pas, quels sont mes risques? Bon, après, classiquement, il y a la tendance sur le marché de l'investissement. Liquidité ou pas, beaucoup de transactions, des valorisations élevées, les corporates, c'est-à-dire les groupes qui sont à l'achat, etc. Ça peut être des opportunités stratégiques. Il peut y avoir des questions circonstancielles. On reçoit des offres, soit il y a une synergie avec un acteur particulier. Donc, s'il est intéressé dans son momentum, c'est bon aussi. Ça va être intéressant de faire l'opération maintenant. Peut-être que dans quelques années, il aura pris une autre voie. Alors après, il y a évidemment les objectifs personnels du dirigeant, une fois de plus, il n'y a pas que l'entreprise. Donc, moi, j'aurais tendance à demander, à chaque fois que je travaille avec des dirigeants qui se posent ces questions-là, c'est pourquoi? Pourquoi vous voulez vendre maintenant? Donc, il peut y avoir des raisons négatives, ce que j'appelle négatives, mais qui ne sont pas connotées, ce qui veut dire des raisons autour du renoncement.
Qui oblige, en fait,
c'est-à-dire, soit elles sont impératives, raisons de santé, par exemple. Donc là, évidemment, c'est une opération qui est faite dans un contexte particulier, mais il faut en tenir compte. Soit incitative, c'est-à-dire en gros qui vous incite à vendre. Par exemple, alors là, c'est là où on peut rentrer dans des aspects un peu personnels, une certaine lassitude, une certaine fatigue, l'impression qu'on a fait son temps, ou qu'il serait bon qu'une autre personne avec un parcours différent prenne la main. Donc, dans un cas d'une raison incitative, donc qui n'est pas impérative, je me pose toujours avec le dirigeant la question de l'alternative à la cession. Qu'est-ce que je dois changer dans mon entreprise ou chez moi pour que j'accepte de continuer à diriger? Est-ce que je dois gérer mon temps différemment? Est-ce que je dois recruter, être mieux soutenu, recruter un DG, un DAF, un directeur commercial? Est-ce que je dois faire monter en compétence certains collaborateurs et mieux déléguer, ce qui me dégage du temps, ce que je peux gérer par rapport au problème de la lassitude et de la fatigue, notamment? Est-ce que je dois faire évoluer mon offre? Est-ce que je peux faire, et là il faut essayer de déterminer les points et se dire, est-ce que je peux faire ça dans un délai raisonnable? Voilà. Ou alors, est-ce que je dois céder ou trouver un partenaire financier qui va m'aider à faire ces changements? Donc, parfois, des sessions complètes changent de nature quand on se pose ces questions. Donc, et dans les questions, les raisons positives, bah, tout simplement parce qu'il y a un autre projet qui tient à cœur. Moi, j'ai eu un dirigeant qui souhaitait ardemment, qui était déjà repreneur, et qui souhaitait ardemment s'investir à 100% sur de l'associatif et sur, en politique. Il y a un moment, c'était plus compatible. Donc, il s'est dit, je me donne 2 ans pour céder, et après, je fais autre chose. Donc, c'est tout à fait légitime de se dire aussi que la vie ne s'arrête pas à l'entreprise et qu'on a envie de passer à une autre étape. Et si c'est bien préparé, généralement, il n'y a aucun problème, y compris en interne. Donc, plusieurs configurations. C'est là où il faut se poser des questions. Céder, bon, vendre ses parts et quitter la direction de l'entreprise. Donc, ça, c'est un certain type d'acheteur. Céder partiellement ses parts, rester minoritaire au capital et quitter la direction opérationnelle. Ouais. C'est possible aussi. Céder ses parts à un groupe en échange de parts sociales du groupe et donc rester dans le groupe et monter avec une autre fonction plus large. Ou céder une partie de ses parts et faire entrer des capitaux pour le livrer et garder la direction opérationnelle. Ouais, donc, tu as des combinatoires différentes suivant, en fait, ta réponse l'objectif. À la question. Est-ce que c'est vraiment le bon moment de céder? Ouais. Oui, mais comment?
C'est ça. Et en fait, bah, chacun des schémas, justement, sera conditionné. Bah, leur mise en place seront conditionnées par les objectifs personnels et
personnels et puis
professionnels, bien sûr.
L'état de l'entreprise elle-même, bien exactement. Évidemment.
Alors, justement, quelles sont les étapes à suivre après avoir pris la décision de vendre son entreprise, Fabienne?
Je pense qu'une fois de plus, tu gardes le double prisme sur l'entreprise et le dirigeant, qui sont des choses qui doivent aller ensemble. Donc, préparation de l'entreprise. Bon, enfin, d'abord, de toute façon, quelque part, ça va préparer correctement la vente. Et si la vente ne se fait pas, ce sera de toute façon au bénéfice de l'entreprise, qui sera du coup dans une logique d'amélioration. Bon, d'essayer d'effectuer un diagnostic lucide, c'est une forme de redécouverte de son entreprise. Parce que justement, la subjectivité fait que quand tu es dedans, il y a plein de choses que tu vois plus.
Ah ben, tout à fait.
Donc, d'être en capacité à prendre du recul et à redécouvrir l'entreprise avec un œil neuf, sa raison d'être, son histoire, sa culture, son marché, son positionnement, ses activités, qu'est-ce qui fait la singularité de ses offres, son organisation avec les atouts et au contraire les faiblesses, l'écosystème, de bien cartographier son écosystème. Bref, de faire un vrai diagnostic indépendamment des diagnostics financiers et du diagnostic, évidemment, sur les actifs, y compris les marques, enfin bon, y compris les immatériels. Bon, de bien déterminer tes forces. Là, c'est déjà un problème de prise de conscience. C'est quoi les forces de cette entreprise? Comment, bien sûr, tu vas pouvoir le prouver derrière? Quelles opportunités tu pourrais imaginer à saisir dans le futur? Ça, c'est d'être capable quand même de se projeter dans le futur, parce que s'il n'y a pas une suite de l'histoire à écrire, l'entreprise n'est pas forcément très attractive. Même si elle va, au cas où elle est rachetée par un groupe, elle va s'adapter à ça. Mais il faut quand même que l'entreprise porte, en fait, une histoire. Une histoire future. Sinon, c'est beaucoup moins...
Il faut que ça plaise à l'acheteur, en fait. Il faut aussi se projeter dans le futur.
Donc, derrière faiblesse... et aussi de façon très lucide, les faiblesses et les risques de l'entreprise. Et les qualifier, c'est ça qui n'est pas facile. Tu peux avoir des risques qui sont très forts, mais sur finalement qui ont très peu d'impact. Des risques très faibles de se produire, mais qui ont un impact majeur. Enfin, vraiment d'essayer de qualifier ça et les faiblesses. Donc ça implique un vrai travail, à la fois technique, mais aussi de lucidité et d'appréciation des choses. Et donc aussi que le dirigeant ait l'esprit, l'espace mental pour faire ce diagnostic. Ensuite, il y a quand même un sujet plan d'action, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même prendre une série de décisions et mettre des choses en œuvre. Donc, des décisions pour essayer de préparer, pour optimiser un certain nombre de choses avant la session, la cohérence de la stratégie. J'aurais tendance à dire renforcer, et ça c'est important, la confiance avec l'écosystème, soit avec tes clients clés, tes partenaires, tes fournisseurs. Renforcer la confiance aussi avec les équipes. Je pense que ça simplifie notablement l'opération derrière. Et ça, c'est une confiance, ça ne se décrète pas, quoi. Ça s'acquiert avec le temps. D'où quand même la nécessité d'une préparation, un peu en amont, qui va rendre les choses justement en aval beaucoup plus simples. Des optimisations de la mise en œuvre d'un certain nombre du plan d'action, des process, d'optimisation financière. Et puis, peut-être aussi de travailler sur un certain nombre déjà de KPI, soit il y en a dans la société, soit il n'y en a pas de façon très explicite, pour aussi qu'on puisse mesurer, parce que les investisseurs vont vouloir mesurer des progressions sur toute une série d'actions. Et donc, derrière, ça finit par un business plan, ouais. qui pour moi n'est qu'une résultante. Voilà. Donc, ça va te prendre 1 à 2 ans, hein, ou peut-être moins, hein, ça dépend, mais le plus tu prépares les choses, ben, le mieux, le plus simple sera l'aval, finalement, et l'opération. Ensuite, il faut quand même commencer à rassembler une documentation. Il ne faut pas sous-estimer le temps que prend ce genre de choses. Hein, parce que voilà, je crois que je parle à un convaincu.
Ça
retarde aussi beaucoup les opérations. Et puis, pareil, préparer le dirigeant sur ses motivations profondes, et vraiment qu'il sache pourquoi il fait cette opération. Quels sont ses vrais objectifs dans le cadre de cette opération. Et parce que c'est là où il l'amènera aussi en étant à l'aise et
voir pour sa motivation, pour est-ce qu'il va pas flancher pendant le process.
Exactement. Et préparer l'évolution de son agenda. Parce que pour moi, l'agenda, c'est un sujet clé pour se dégager du temps. Hein. Ça, c'est un vrai point. Donc, agenda, et ça va vous dire travailler sur des processus aussi de délégation en interne, de se concentrer sur sa mission de dirigeant dans son essence pour dégager du temps. Et aussi récupérer l'info pertinente, ne pas être noyé dans toute une série de choses finalement qu'il faudrait, sur lesquelles il faudrait s'extraire quand on va lancer une opération. Voilà.
Ben merci beaucoup Fabienne pour cette réponse très structurée. Parce que selon toi, quelles sont les erreurs les plus courantes que les dirigeants commettent quand ils, lors d'une opération de cession, et surtout comment ils peuvent en fait les éviter?
Alors bon, ça c'est vraiment fondé sur l'expérience, donc je n'ai pas la prétention à l'exhaustivité là-dessus. Moi, ce que j'ai vu régulièrement, c'est une sous-estimation du temps de la préparation, déjà. Donc attention, alors je pense que toi, tu es confronté à ça, parce que quand la banque d'affaires arrive, la capacité à lancer l'opération dépend aussi justement...
Comment il est, de son attitude de dirigeant, est-ce qu'il est prêt mentalement?
Est-ce qu'il est prêt mentalement? Est-ce que la société est un peu préparée aussi? Parce qu'il y a des cas où les sociétés ne sont pas cessibles en l'état. La sous-estimation aussi de la charge mentale et de l'énergie et du temps passé que tu vas avoir sur ce type de sujet. Le risque à un moment de se retrouver... Vraiment pris en étau entre les affaires courantes...
Les acheteurs, les échanges avec la banque d'affaires, s'il a une banque d'affaires.
Donc ça, c'est important sur la préparation mentale du dirigeant et sur son agenda. Ça, pour moi, c'est les deux outils. Une mauvaise approche du prix, pour revenir à des choses très basiques. Un manque de lucidité sur la valeur. Manque de réalisme.
C'est plus important,
C'est quand même d'aller...
De creuser,
parce que le prix, c'est souvent le réceptacle de sujets qui ne sont pas le prix, en fait.
Exactement.
Voilà. Ouais. Et puis, il faut aussi acculturer un peu les dirigeants, parce que la transaction, elle va porter sur un ensemble de paramètres. Il n'y a pas que la valeur, le prix. Il y a les modalités de paiement, il y a les problèmes de garantie, il y a les problèmes de non-concurrence. C'est quand même un ensemble qu'il faut considérer. Donc, attention à ce sujet prix. Et là, je pense que le sujet, c'est un petit peu une acculturation à tout ce qui fait la valeur de l'opération, d'être clair sur ses objectifs et de se dire, est-ce que finalement la cession, c'est finalement la bonne approche du sujet. Le manque de transparence. Alors, c'est pas forcément volontaire dans les erreurs, pas forcément pour cacher des informations clés, mais c'est réticent par peur aussi de fuite à fournir de l'information. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais il y a des vrais moyens, même en plus des accords de confidentialité, de se prémunir à la fois de la confidentialité de l'opération et du secret et de la fuite du secret des affaires. Ça existe. Ma précédente activité m'a beaucoup familiarisé à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'impact de cette espèce de résistance, c'est d'abord une perte de temps, parce qu'en fait, il y a des erreurs qui sont faites dans la compréhension de l'entreprise. C'est un impact de perte de confiance au bout d'un moment. Et le risque, s'il y a une mauvaise surprise en bout de course,
c'est
extrêmement préjudiciable aux opérations. Et qui vont en plus, les acheteurs vont en plus se couvrir, parce que s'ils ont peu d'informations, ils vont prendre beaucoup de garanties post-opération. Parce que justement, pour lever des incertitudes, ils ne sont pas réussis à lever. Donc attention à bien doser par rapport à cette transparence. Ça, c'est pour moi une erreur souvent de primo-vendeur, entre guillemets.
Oui, la peur de donner des informations confidentielles.
Voilà. Donc, il y a des moyens de se prémunir quand même. Manque d'anticipation aussi opérationnelle sur les impacts sur la société. Parce qu'en fait, c'est une vraie conduite du changement, cette opération. Les impacts sur les équipes, il y en aura plus tard. Il y a un moment, les choses se savent. Il faut vraiment anticiper et quelque part accompagner une forme de changement dans la société. Donc, de façon à ne pas se retrouver à gérer une société qu'on va continuer à gérer, modulo le fait que l'opération soit faite. Si elle ne se fait pas, le dirigeant est toujours là.
Oui.
Donc, il faut quand même considérer qu'une opération peut échouer.
Ah bah oui.
Donc, il faut protéger la société et l'aider à passer cette phase. Et dernier point, considérer l'opération comme un sujet purement technique. Il ne faut pas s'oublier dans cette affaire en tant que dirigeant. Il faut gérer ses émotions et on va vraiment en avoir. On va passer de la joie à l'abattement, en passant
déception
par
à la, surprise,
la
ouais.
colère, en passant par la surprise. Ouais. C'est un peu une aventure hein, ouais. quand même tout ça. Et donc, il n'est pas question de nier ces émotions parce qu'en fait, en les refoulant complètement, ça se paye toujours à un moment donné du process en boomerang. Après, il faut les gérer. Et dernier point essentiel, surtout pas rester seul.
Ouais.
Ça, je pense que s'il y a bien un conseil, une erreur majeure, c'est de rester seul. Donc, il faut s'entourer d'un réseau de pairs parce qu'on peut avoir des bonnes pratiques. D'autres gens ont cédé leur société, d'autres dirigeants dans d'autres secteurs, dans des réseaux de dirigeants. Il faut les conseils appropriés. Bon, moi, je suis très... C'est pas parce que j'ai fait ce métier et que tu le fais aujourd'hui, mais je suis quand même sur une certaine taille d'opération, qui peut d'ailleurs être déjà assez modeste, vraiment pour le fait qu'il y ait une banque d'affaires. Parce que c'est des gens expérimentés dans la gestion du processus de cession, quand même un processus finalement assez technique et assez encadré, qui sait gérer la synchronisation, parce que sinon tu vas avoir une offre, mais t'en vas en attendre une deuxième qui arrive un mois et demi plus tard, enfin t'arrives pas à conclure.
Tout à fait.
Et donc cette synchronisation, elle est pour moi essentielle pour que l'opération aboutisse, en gérant en fait toutes les parties prenantes, y compris les différents...
C'est un quinton considérable pour
exactement.
Le dirigeant.
Et c'est aussi des conseils qui protègent le dirigeant. Ouais. Parce qu'on parlait de cette surexposition, il ne faut pas tout le temps être trop frontal. Ça peut être même très préjudiciable au dirigeant et à l'opération. Deuxième sujet, bon avocat spécialisé en fusion acquisition.
Ouais. Ah ouais, ouais, mais je ne te le fais pas dire. Parfois, ça peut capoter malheureusement à cause d'avocats qui ne sont pas... dont c'est pas le métier,
voilà.
C'est son entreprise.
Alors ça peut pas, c'est pas forcément l'avocat historique qui est le mieux placé pour suivre ça. Alors là j'ai plein d'anecdotes, mais je les donnerai pas parce que voilà, mais ça peut vraiment faire des dégâts très importants, même si le dirigeant a confiance dans son avocat, mais c'est vraiment un métier vraiment d'accompagner ces transactions. Il faut des conseils spécialisés dans ce type d'opération et adaptés à la taille de l'opération.
Surtout ça,
ouais. Ça, c'est très important aussi. Si c'est une petite société, ce n'est pas la peine de prendre le bulldozer pour écraser la mouche. Il faut s'adapter parce que ce n'est pas tout à fait le même type d'opération, suivant la taille. Il y a des avocats qui sont plus spécialisés et plus, en termes de mindset, plus adaptés à certains types d'opérations. Par ailleurs, il faut s'occuper de ses intérêts patrimoniaux. Il y a peut-être des sujets de donation, ça, il faut prendre aussi
tout
des gens.
Fait.
Mais ça, généralement,
la fiscalité.
Voilà, donc ça, généralement aussi, de toute façon, c'est un sujet global pour le dirigeant. Un expert comptable aussi, qui peut être aussi quelqu'un aussi qui est capable d'être un bon interlocuteur. Puis le cas échéant, des auditeurs, si on décide de faire des audits en amont. Mais voilà, donc ça, c'est très important d'avoir des conseillers, de ne pas être seul et d'avoir des conseils appropriés et finalement aussi de se mettre peut-être en relation avec des gens qui ont déjà vécu cette situation.
Merci beaucoup Fabienne. Alors on va clôturer ce très bel échange par une dernière question justement sur ton rôle en tant que sparring partner sur l'accompagnement des dirigeants dans le processus de cession, comment tu les coaches. Ça permettra de résumer un peu tout ce que tu as pu dire auparavant. Et surtout pour que les auditeurs sachent un peu ce que tu pourrais faire pour les dirigeants qui souhaiteraient vendre.
Alors, j'accompagne en fait les dirigeants d'une façon générale. Donc, c'est pas forcément uniquement. Alors, ça m'est arrivé d'être focalisé à un moment sur une opération de cession, mais je les accompagne globalement dans la vie, dans leur vie en tant que dirigeant. et dans la vie de l'entreprise au fil du temps. Mmh. Donc, c'est pas forcément uniquement sur le processus de cession, sur la phase de la transaction. Donc, mais dans le processus, lorsqu'on est sur un sujet de cession, et ça arrive quand même très souvent, je les accompagne tout particulièrement dans la phase de préparation de la société. Donc moi, je vais les challenger avec bienveillance, hein, évidemment, sur le diagnostic, sur la société. Il y a vraiment un sujet de redécouverte de la société. Je vais les aider à éclaircir les options, les décisions. Hein, je crois qu'on en a évoqué un
bien
certain
sûr,
nombre
hein.
au cours de ce podcast. Les conditions très concrètes de passage à l'action. Oui. Comment on va procéder, comment il va procéder. Hein, parce que c'est pas moi qui vais le faire. Sur qui il va s'appuyer, etc., le plan, le calendrier, etc. Enfin, toute une série d'éléments à la fois conceptuels, mais aussi pratiques, qui font qu'il va pouvoir préparer sa société de façon sereine et concrète, hein, de façon à justement se mettre en bonne situation derrière. Deuxièmement, je vais travailler sur lui faire émerger. Alors, ça peut être un travail très simple. Hein. Il ne s'agit pas d'une psychanalyse de 30 ans, loin de là. Ça peut être fait même très rapidement. Pour faire bien émerger, j'ai des techniques hein, pour ça, pour faire émerger ses vraies motivations profondes, pour qu'il ait un maximum de discernement quant à l'opportunité de céder, l'impact pour lui, et quels sont vraiment, parce que ça, je pense que c'est un point clé, ses objectifs. Au cas où il finit. Ça, on a un dirigeant qui quelque part prépare son opération à tous les niveaux en pleine conscience. Oui. Voilà. Et qui agit, bien évidemment. Alors, avant et pendant le processus de cession, qu'est-ce qui va se passer? On va travailler sur des sujets aussi, j'en ai beaucoup parlé, sur la gestion du temps et de l'agenda. C'est un sujet absolument clé dans ce cadre de ces opérations. Comment aussi on maintient une vigilance sur la marche des affaires, sur quels critères clés? Vigilance sur la motivation des personnes clés et un certain nombre de KPI qu'on va suivre parce que c'est ceux qui nous diront si les choses se passent comme prévu ou pas, y compris dans la société et sur l'opération. Travailler aussi sur lui, sa posture, comment se rendre, le cas échéant, c'est pas toujours le cas, hein, moins indispensable. Processus de délégation, comment on va travailler la montée en compétence des équipes, leur donner plus d'autonomie, parce que bon, ça c'est dans la phase de préparation, mais ça va être absolument clé dans la phase de cession. Parce que, en fait, s'il part, il faut qu'il y ait quand même une société en état de marche.
Bien sûr.
Qui peut survivre sans lui.
Ouais, surtout ça.
Et puis, même s'il part pas, d'avoir des équipes solides, c'est vraiment très, très important. Et en plus, ça va lui dégager du temps et de la sérénité. Pour la négociation, il y a une phase aussi de négociation. Donc là, je vais faire un travail plutôt sur l'assertivité, sur l'écoute active, des trainings, le cas échéant, parce qu'ils peuvent pouvoir s'exercer aussi librement avec moi. Je vais lui donner une série de techniques.
Un vrai coach, ouais, c'est ça.
Ouais,
c'est un vrai
coaching. Hein. Ouais, en fait, c'est un travail très complémentaire à celui de la banque d'affaires. On ne se marche pas sur les pieds, mais c'est censé simplifier le travail de la banque d'affaires.
Tout à fait.
Simplifier, ça veut dire le rendre plus efficace. Ça ne veut pas dire que la banque d'affaires n'aura pas de travail. Je vais travailler avec lui éventuellement, s'il le souhaite, hein, toujours ça, il faut qu'il en ait envie, hein, sur la communication, l'entraînement au pitch investisseur, la communication interne, le cas échéant, qui est assez critique, la relation actionnaire, qui peut être complexe. Un certain nombre de sujets sur la stratégie des alliés, la gestion des divergences, comment on répond à une objection, la gestion des conflits d'intérêts, comment on maintient une dynamique actionnariale, malgré ses incertitudes. Ça, c'est au cas où il a des actionnaires déjà, externes à lui. Comment il peut faire face, là aussi, il y a des techniques, et puis, même concrètement, on discute quand on est face à une situation, hein, moi je suis joignable à tout moment, comment il fait face à l'imprévu? Il y aura des imprévus dans l'opération, dans la marche des affaires.
Partout.
Comment il va travailler sa résilience et sa capacité à rebondir dans ces contextes-là. Et puis, la gestion de ses émotions, parce que là, au cours du temps, c'est quand même un travail de longue haleine. C'est comment, justement, relâcher la pression. Donc là aussi, il y a des techniques, puis des choses aussi qui sont adaptées à certaines personnes ou d'autres à d'autres. Comment il va pouvoir maîtriser son stress? Comment il va pouvoir maîtriser et tourner positivement certaines émotions, la lassitude, la colère, la peur.
La peur,
voilà, qu'il ne faut pas nier, hein, et qui est normal. Mais comment on peut tourner ça de façon positive et bien sûr atteindre, moi je perds jamais de vue qu'il a un objectif. On n'est pas là juste pour faire des choses psychologisantes. Mmh. Il a un objectif en tête, ce sont les objectifs définis dans le cadre de la session. Et pour moi, ça va réussir si on réussit à les atteindre.
Tout à fait.
Je suis une ancienne dirigeante, moi mon but c'est d'atteindre l'objectif. Ouais. Donc en coaching, on reste quand même focalisé pour qu'il y ait une progression d'un point A vers un point B jusqu'à l'atteinte de l'objectif.
Donc pour que...
Pour clôturer
ce très bel échange, Fabienne, donc une dernière question, des conseils que tu pourrais donner à un dirigeant qui envisage de céder son entreprise pour la première fois.
S'éduquer sur le processus de cession, il y a quand même un sujet d'acculturation. Il faut connaître, savoir comment ça se passe, d'ailleurs ça démystifie. Donc le réseau des webinars, les entourages avec les pairs, il faut vraiment s'acculturer, surtout si c'est la première fois. Ça évite bien des malentendus sur la suite, puis ça nourrit la réflexion. Bon, se préparer l'entreprise, se fixer des objectifs clairs, s'entourer, sélectionner. Je reviens sur ce sujet parce que ça me paraît très important. Les bons conseillers, ne pas rester seul, rester ouvert et flexible. Bon, il faut se fixer une ligne rouge, mais on peut pas. Il faut savoir accepter une forme d'imperfection. Sinon, on ne lance jamais d'opération, on ne conclut jamais d'opération.
Ouais, exactement.
Donc voilà, puis tenir la barre, tenir la barre en interne et renforcer la cohésion. Donc voilà, pour un dirigeant qui cèderait là pour la première fois, je suis sûre que je ne suis pas exhaustive. À pire, c'est quand même que ces opérations, bien que ce soit très exigeant, c'est une belle aventure en soi, en fait.
Ça enrichit aussi.
Ça donne l'opportunité de réfléchir sur soi, de réfléchir sur son entreprise, dans un but d'amélioration, l'opération se fasse ou pas. Deuxièmement, quand elle se fait, évidemment, on a atteint l'objectif, c'est satisfaisant. Et au fond, c'est une forme aussi d'aventure. Et comme je pense que tu l'as compris, moi, dans l'entreprise, j'aime bien vivre des aventures. C'est avec plaisir que j'accompagne. Aujourd'hui, je les accompagne plus que je ne les vis. Mais je suis ravie aussi d'accompagner dans le cadre de cette... de ce moment si particulier, en fait, de la session. Voilà.
Merci beaucoup, Fabienne. Alors, à toutes les personnes, à tous les dirigeants qui nous écoutent, Fabienne, comme vous l'avez bien compris, donc, est coach pour les dirigeants, pour toutes les opérations qui peuvent être importantes, donc pour répondre à tous les enjeux auxquels vous faites face, et notamment, comme on l'a évoqué dans le sujet du jour, sur les opérations de session. Donc, je vous recommande, pour tout sujet, ou si vous avez juste besoin de poser des questions, d'avoir une oreille attentive, je vous conseille de contacter Fabienne. Donc, un grand merci à toi, Fabienne.
Merci beaucoup, Elia, de m'avoir reçu pour Entreprise et Décision. J'étais ravie de cet échange.
Tout le plaisir est pour moi et on se dit à très très vite.
À bientôt.